à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Chers auditeurs, je reçois aujourd'hui une éminente juriste qui est maître de conférence à l'Université Toulouse Capitole, Lucie Sourza. Bonjour.
Bonjour.
Lucie Sourza, ce n'est pas la première fois que vous venez nous voir pour nous parler de problèmes sur lesquels vous travaillez particulièrement en tant que juriste de droit public, puisque vous aviez fait un colloque remarquable qui s'appelait « Fin de vie et territoire » en 2023. Les actes de ce colloque ont été publiés en janvier 2024 aux éditions hospitalières. La caractéristique de ce travail, c'était que c'était un travail transversal. Il y avait bien sûr un volet de juristes, puisque c'était au sein de l'université organisé par vous. Mais il y avait aussi des médecins, des infirmières, des spécialistes des soins palliatifs, etc., qui échangeaient leur point de vue. Et donc, j'ai trouvé pertinent de vous demander de revenir, parce qu'on est en plein débat sur ce fameux serpent de mer au point de vue des gens qui nous gouvernent et notamment de l'Assemblée nationale et du Sénat, ce serpent de mer qui est la loi dite de fin de vie. Donc si vous en êtes d'accord, merci de venir nous éclairer pour qu'on ait un peu un état de ce qui existe d'un point de vue juridique aujourd'hui, un état des projets qui sont pas encore votés à ce jour, mais qui sont en cours de discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat, et un état également des arguments de part et d'autre, c'est-à-dire de ceux qui sont pour cette loi et de ceux qui sont contre. Donc je pense que pour nos auditeurs, c'est utile d'avoir le regard d'une juriste spécialisée sur ces questions qui pourra nous dire de façon précise l'état du droit et de ce qui se discute aujourd'hui. Donc merci d'être venu. Et donc, comme les auditeurs l'ont sans doute compris, nous aurons trois entretiens. Et celui d'aujourd'hui est consacré à l'état du droit, avant le projet de loi sur la fin de vie, puisqu'il y a la fameuse loi Leonetti, dont peut-être beaucoup de gens ont entendu parler, puis cette loi a elle-même évolué, et on parle de la loi Claeys-Leonetti. Donc Lucie Sourza, je vous laisse nous expliquer où on en est.
Merci déjà pour votre invitation. Je suis toujours très honorée d'intervenir dans votre émission. Alors effectivement, nous avons déjà un important arsenal législatif en ce qui concerne l'encadrement, l'accompagnement des personnes en fin de vie. En réalité, tout a commencé plutôt avec une loi de 1999, qui est donc une loi très importante, puisque cette loi du 9 juin 1999, elle a posé une définition des soins palliatifs et elle a aussi garanti un droit d'accès aux soins palliatifs. Donc 1999. Ensuite, nous avons eu la célèbre loi Kouchner du 4 mars 2002 qui a commencé à poser les jalons du droit au refus de traitement. Ensuite, s'en est suivie la loi de 2005 que vous avez donc évoquée tout à l'heure, la loi Leonetti, qui quant à elle est venue poser le devoir du médecin de non-obstination déraisonnable et qui aussi est venue apporter des compléments en ce qui concerne le droit du patient de refuser des traitements, mais également le devoir du médecin de sauvegarder la dignité du mourant.
Oui, c'est important ce que vous dites, parce qu'effectivement, cette loi de 2005, donc on voit qu'elle n'est pas arrivée sur rien, elle est arrivée dans une suite logique, et elle est une loi contre l'acharnement thérapeutique, on peut dire ça?
Exactement. C'est l'objectif de la loi de 2005, c'est vraiment de poser ce devoir qui repose donc sur les épaules du médecin, de ne pas faire de l'obstination déraisonnable dès lors que l'acte curatif apparaîtrait comme inutile ou comme disproportionné ou comme entraînant un maintien artificiel de la vie. C'est ce que dit le texte qui a été ensuite codifié dans notre code de la santé publique. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors c'est une procédure qui est collégiale, d'accord? Ce n'est pas le médecin tout seul qui prend la décision. Donc procédure collégiale, et notamment, le texte évoque également l'arrêt de la nutrition et l'arrêt de l'hydratation artificielle. Donc ça, c'est la loi de 2005.
De la nourriture et de l'hydratation, les deux artificielles, on est bien d'accord.
Exactement.
C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont plus en mesure, de façon autonome, de se nourrir.
Exactement, je vous le cite à le texte. La nutrition et l'hydratation artificielle constituent des traitements qui peuvent être arrêtés. Voilà, donc ça, c'est la loi de 2005. Et ensuite, on a la très célèbre loi Claeys-Leonetti, vous l'avez également évoqué tout à l'heure, du 2 février 2016, qui va poser un droit très important également, qui est le droit à la sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès de la personne. Donc attention, c'est une procédure qui est à la demande du patient, qui doit remplir également, bien sûr, un certain nombre de critères très encadrés. Alors nous avons notamment, lorsque le patient est atteint d'une affection grave et incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui présente une souffrance réfractaire au traitement, ou alors lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. Cette procédure est également applicable dans le cas d'un patient qui ne pourrait pas exprimer sa volonté et au titre, on va reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, au titre du refus de l'obstination déraisonnable. Mais attention, je le redis, c'est une procédure, là encore, collégiale.
Lucie Sourzin, une précision. Donc oui. Cette sédation profonde, oui. Ça veut dire qu'on vous met concrètement dans une sorte de coma.
Exactement. Alors attention, c'est un coma, enfin,
artificiel.
Je ne suis pas médecin, hein, mais voilà, c'est une procédure médicamenteuse qui vous plonge dans un coma, d'accord. Mais attention, s'en suivra une mort naturelle, d'accord. C'est-à-dire qu'on ne provoque pas un geste létal dans le cadre de la sédation profonde et continue.
On laisse la nature.
Exactement. Soulage le patient avec un certain nombre
de produits qui évitent la douleur.
Chimiques, exactement. On est là pour vraiment apaiser la douleur du patient, hein. Mais il n'y a pas, je le répète, parce qu'il y a souvent une confusion dans l'esprit de nos concitoyens, il n'y a pas, dans la sédation profonde et continue, il n'y a pas de geste létal. Voilà. Donc ça, c'est important vraiment de le noter.
C'est la grande différence, oui, avec les projets actuels, j'imagine.
Exactement, c'est la
et
différence.
Et dans, encore une question, dans cette loi Claeys-Leonetti, donc de 2016, qui permet une sédation profonde pour des gens où on désigne... Par collégialité, on est bien d'accord,
bien
le
sûr.
Terme est important, on décide qu'il faut laisser faire la nature et ne pas faire d'acharnement. Donc, cette sédation profonde, est-ce qu'il faut l'autorisation de la famille ou des ayants droit?
Ah bah, écoutez, de toute façon, comme le dit le texte, c'est à la demande avant tout du patient. C'est à la demande
et s'il n'est plus capable de...
Et alors, s'il n'est plus capable d'exprimer sa volonté, ça va être une décision qui va être prise par les médecins dans le cadre d'une procédure collégiale.
D'accord.
Vraiment.
Donc, la famille peut-elle s'y opposer?
Consultée. Elle peut.
Elle est consultée, mais est-ce qu'elle peut s'y opposer?
Alors, non, a priori, il ne semble pas alors, qu'elle peut s'y opposer. Mais en principe, vu la situation dans laquelle le patient se trouve quand on lit les critères d'application de la procédure, il nous semblerait...
Il y a un consensus qui se dégage.
Oui, en principe, oui.
Très bien. Donc là, on en est là sur la loi Claeys-Leonetti de 2016. Depuis 2016, et sans anticiper le débat ensuite qu'on aura sur l'état actuel de la proposition de loi, mais est-ce qu'il y a eu d'autres évolutions?
Alors, depuis la loi Claeys-Leonetti, il y a eu en réalité, au niveau législatif, rien de bien flagrant, d'accord? Par contre, nous avons eu des plans nationaux pour le déploiement, pour le développement des soins palliatifs. Ça, oui, on en a eu 5 plans nationaux. Et on a également eu, tout récemment, puisque ça date du mois d'avril 2024, la stratégie décennale des soins d'accompagnement qui a été donc lancée le 22 avril, je le disais, 2024, et qui repose sur plusieurs objectifs stratégiques qui accordent 30 mesures pour favoriser le déploiement des soins palliatifs et un peu plus d'1 milliard d'euros de mesures nouvelles sur 10 ans.
Donc, c'est un développement, est-ce qu'on peut dire que c'est un développement des soins palliatifs qui est venu accompagner cette loi ?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Et vous le disiez, dès 2005, la première loi Leonetti, on a posé le principe d'un droit aux soins palliatifs. Où est-ce qu'on en est de ce droit ? Est-ce que vraiment ce droit s'applique en France à tout le monde de la même façon ?
Alors justement, il y a une vraie problématique à ce niveau-là. C'est qu'à ce jour, nous avons encore une très forte inégalité d'accès aux soins palliatifs sur notre territoire métropolitain et également outre-mer. Puisqu'à ce jour, nous avons encore 19 départements qui ne disposent pas d'unité de soins palliatifs.
Aucune unité ? Ça veut dire que si les gens qui sont dans ces départements, ils ont peut-être un droit, mais ils ne peuvent pas en bénéficier ?
En tout cas, difficilement. Alors, il peut y avoir ce que l'on appelle des lits identifiés de soins palliatifs, par exemple, ce qu'on a sous l'acronyme LISP, d'accord ? Mais il n'y a pas d'unité à proprement parler de soins palliatifs dans ces départements-là.
Alors, par soins palliatifs, qu'est-ce qu'on entend précisément ? Vous qui êtes une spécialiste, quelle est la définition du soin palliatif ?
Alors, le soin palliatif, je vous donne tout simplement la définition législative. Hein. Ouais. Ce sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile, visant à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Et je tiens juste, pardonnez-moi, à préciser par rapport à votre question de tout à l'heure, l'opposition, elle peut venir à la sédation profonde et continue des directives anticipées, hein, de la personne.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que la personne, si cette dernière a, le patient, hein, je parle ouais. du patient, si ce patient a rédigé des directives anticipées en
quelques mois ou quelques années
exactement,
avant.
Exactement, dans lequel il s'oppose à la sédation profonde et continue, il faut respecter, dans la mesure du possible,
cette
les directives
volonté.
Anticipées.
D'accord.
Voilà.
Mais le patient uniquement, ce n'est voilà. pas la famille.
Alors, en principe, oui, c'est le patient.
Et donc, ce principe de soins palliatifs qui donne l'obligation, au fond, d'aider les personnes, de les accompagner pour qu'elles souffrent le moins possible, est-ce qu'on peut considérer qu'on peut encore aller plus loin
Oui, tout à fait. Oui, on peut encore aller plus loin. D'ailleurs, la proposition de loi qui a été unanimement adoptée propose d'aller beaucoup plus loin. Et on doit s'en réjouir.
Bon. Eh bien, Lucie Sourza, merci pour cet éclairage sur l'état de droit avant cette fameuse proposition de loi sur la fin de vie. Et donc, le lien est fait avec les soins palliatifs dont nous parlerons dans le prochain débat. Merci.
Merci à vous.